Chapitre 5. Terrylville.
17 jours.
Par le petit hublot de sa cabine, Althea regardait Terrylville approcher. Les mâts nus des caravelles et des caracs se dressaient au-dessus des quais qui bordaient la paisible baie. Des embarcations de moindre taille faisaient activement la navette entre les navires à l'ancre et la terre.
À la maison, enfin!
Elle avait passé 17 jours enfermée, ne quittant sa cabine que lorsque c'était nécessaire et aussi pendant les quarts où Kyle dormait. Les premiers temps, elle bouillait d'une rage entrecoupée de crises de larmes contre l'injustice de son sort. De façon puérile, elle avait juré de supporter la restriction de Kyle rien que pour pouvoir s'en plaindre à son père à la fin du voyage.
« Regarde ce que tu m'as fait faire !» se disait-elle.
Et puis, elle avait un petit sourire. C'était la vieille exclamation de son enfance quand elle se disputait avec Kefria. Un plat ou un vase brisé presque sans le faire exprès, un seau renversé, une robe déchirée. « Regarde ce que tu m'as fait faire !» Kefria avait crié cette phrase à une exaspérante petite sœur aussi souvent qu'Althea à une persécutrice plus grande qu'elle. C'est ainsi qu'avait commencé sa retraite. Elle avait tour à tour boudé et tempêté en songeant à tout ce qu'elle dirait à Kyle s'il avait le front de se présenter à sa porte, que ce fût pour s'assurer qu'elle suivait ses ordres ou pour lui annoncer qu'il regrettait sa décision. En attendant, elle avait relu tous ses livres et ses manuscrits. Elle avait même sorti la coupe de soie et envisagé de commencer à se confectionner une robe elle-même. Mais ses talents de couturière allaient plus à la toile de marine qu'à la soie, et le tissu était trop fin pour courir le risque de faire du mauvais travail. Aussi avait-elle préféré ravauder ses vêtements de bord. Mais même cette tâche s'était achevée un jour, et elle s'était aperçue qu'elle ne supportait pas les longues heures oisives qui s'étendaient devant elle. Un soir, énervée par sa couchette trop petite, elle avait jeté sa literie par terre et s'y était allongée en relisant « Le journal d'un marchand » de Deldom. Elle s'était alors endormie et avait rêvé. Enfant, elle faisait souvent la sieste sur les ponts de la Vivacia, où passait la soirée allongée sur le plancher des quartiers de son père à lire ses livres. L'assoupissement lui amenait toujours des images et des rêveries réalistes. Quand elle avait grandi, son père l'avait gourmandée d'un tel comportement et avait veillé à ce qu'elle eût toujours assez à faire pour ne pas avoir le temps de somnoler sur le pont. Lorsqu'elle se rappelait ses anciens rêves, elle les mettait sur le compte de l'imagination trop vive d'une enfant. Mais ce soir-là, sur le plancher de sa propre cabine, les couleurs et les détails des songes de son enfance lui revinrent. Son rêve était trop réaliste pour provenir de son propre esprit. Elle vit son arrière-grand-mère, morte avant sa naissance. Mais dans son rêve, elle connaissait Thalet aussi bien qu'elle se connaissait elle-même. Thalet Vestrit arpentait les ponts à grands pas en criant désordre aux matelots qui pataugeaient dans un enchevêtrement de toiles, de cordages et de morceaux de bois brisés au milieu d'une formidable tempête. En un instant, aussi rapide qu'un souvenir, Althea comprit ce qui s'était passé. Une grande lame avait emporté le mât et le second et le capitaine Vestrit elle-même s'était jointe à l'équipage pour y ramener l'ordre et l'équilibre par ses braillements assurés. Elle ne ressemblait en rien à son portrait. Althea n'avait pas devant elle une femme docilement assise dans un fauteuil, l'air collé monté, vêtue de laine noire et de dentelle blanche, avec un époux à la mine austère debout à côté d'elle. Depuis toujours, Althea savait que c'était son aïeul qui avait commandé la construction de la Vivacia. Dans ce rêve, toutefois, il ne s'agissait pas seulement de la femme qui avait discuté avec les banquiers et les constructeurs, mais soudain de celle qui avait aimé la mer et les bateaux et qui avait hardiment déterminé le cap de ses descendants par sa décision de posséder une vive nef. Ah, avoir vécu en une telle époque où une femme détenait une telle autorité! Le rêve fut bref et sec, comme l'image qui demeure après un éclair, et pourtant quand Althea se réveilla, la joue et les paumes pressées contre le bois du plancher, elle ne doutait pas de sa vision. Trop de détails restaient imprimés dans sa mémoire. Dans le songe, la Vivacia était montée avec un gréement à voile aurique, ou du moins ce qu'il en restait après la fureur de la tempête. Or,
Althea ne l'avait jamais connu ainsi gréé. Elle saisit aussitôt les avantages d'un tel système, et tant que dura le rêve, elle partagea la confiance qui portait son arrière-grand-mère. Elle avait été si complètement immergée en Thalès qu'elle fut prise d'un étourdissement en se réveillant Althea. Des heures plus tard, rien qu'en fermant les yeux, elle était capable de revoir la tempête, les souvenirs de Thalès mêlés aux siens comme une carte étrangère à un paquet. Ce rêve lui venait de la Vivacia. Il ne pouvait en être autrement. Cette nuit-là, elle s'était préparée à dormir à même le sol de sa cabine. Le plancher poli et huilé n'était pas confortable. Cependant, elle n'y posa ni couverture ni coussin, et la Vivacia l'avait récompensée de sa confiance. Althea avait passé une après-midi en compagnie de son grand-père pendant qu'il négociait avec prudence un des chenaux les plus étroits des îles aux parfums. Par-dessus son épaule, elle l'avait vu repérer les rochers en saillie, mettre à la mer un canot pour tirer plus rapidement le navire par un point qui ne peut se franchir qu'à une certaine heure de marée. C'était le secret du grand-père, et il avait donné aux Vestrites le monopole sur la sève d'un certain arbre qui, en séchant, se transformait en gouttelettes aux somptueuses fragrances. Plus personne n'avait remonté le chenal pour commercer avec les villages au-delà depuis la mort du grand-père. Comme tout capitaine, il avait emporté dans le trépas plus qu'il ne pouvait transmettre à ses descendants. Il n'avait dessiné aucune carte, mais le savoir n'était pas perdu puisqu'il demeurait dans la Vivacia et qu'il ressurgirait avec elle lorsqu'elle s'éveillerait. Déjà, Althea se sentait en mesure de faire franchir ce chenal au navire tant il lui avait transmis ses secrets en détail. Nuit après nuit, Althea se coucha sur le plancher du bateau et rêva avec lui. Même le jour, elle s'allongeait, la joue appuyée contre le bois, et songeait à son avenir. Peu à peu, elle s'accorda à la Vivacia. Depuis les frissons de son corps de bois lorsqu'il luttait pour obéir à un subit changement de cap, jusqu'au son paisible qu'émettaient les membrures quand le vent la poussait droit et régulièrement. Les cris des marins, le léger tonnerre de leurs pieds sur ses ponts, n'avaient guère plus d'importance que les piaulements des mouettes qui se posaient parfois sur elle. En de tels moments, Althea avait l'impression de ne faire plus qu'un avec le navire, consciente de tous les petits hommes qui escaladaient ses mâts comme seule peut l'être une grande baleine d'hébernacle qui s'accroche à elle. Le navire était bien plus que les hommes qui travaillaient sur lui. Althea ne connaissait pas de mots pour exprimer les fines différences qu'elle éprouvait désormais dans le vent et les courants. Il y avait du plaisir à œuvrer avec un bon timonier et de l'agacement à être aux ordres de celui qui effectuait sans cesse des ajustements infimes et inutiles, mais c'était des émotions superficielles à côté de ce qui se passait entre le navire et l'eau. L'idée que l'existence d'un navire pût dépasser ce qui se produisait entre son capitaine et lui fut une révélation capitale pour Althea. En l'espace de quelques nuits, toute sa conception de ce qu'était une vive nef subit un bouleversement complet. Au lieu d'un confinement obligatoire dans ses quartiers, les jours qu'elle passa enfermée dans sa cabine devinrent une expérience totale. Elle se rappelait bien certains jours où elle avait ouvert sa porte sur un matin éclatant au lieu de la douce soirée à laquelle elle s'attendait. Le cuisinier avait eu le culot de la prendre par l'épaule et de la secouer lorsqu'elle s'était mise à rêvasser dans la coquerie lors d'une de ses visites pour se restaurer. Plus tard, des coups incessants frappés à sa porte l'avaient dérangée. Quand elle avait ouvert, ce n'était pas Kyle qu'elle avait trouvé devant elle, mais Brashen. Il avait paru mal à l'aise de l'interroger, mais n'en avait pas moins demandé si elle allait bien. « Naturellement, je vais bien !» avait-elle répondu en essayant de refermer la porte. Mais il l'avait maintenue ouverte, le bras tendu. « Vous n'en avez pas l'air. D'après le coq, on dirait que vous avez perdu 5 ou 6 livres, et j'ai l'impression qu'il a raison. Althea, j'ignore ce qui s'est passé avec le capitaine Kyle, mais la santé de l'équipage fait encore partie de mes attributions. » Elle regarda son front plissé, ses yeux sombres et troublés, et ne vit en lui qu'un gêneur. « Je ne suis pas membre de l'équipage !» s'entendit-il répondre. « Voilà ce qui s'est passé entre le capitaine Kyle et moi. Et la santé d'une simple passagère ne vous regarde pas. Laissez-moi tranquille !» Et elle tenta de refermer la porte. « La santé de la fille d'Ephron Vestrite me regarde, en revanche. Je le considère autant comme un ami que comme un capitaine, Althea. Regardez-vous, on a l'impression que vous ne vous êtes pas peigné depuis des jours, et selon plusieurs hommes, quand ils vous ont vu sur le pont, vous erriez comme un fantôme avec des yeux aussi vides que l'espace entre les étoiles. Il paraissait vraiment inquiet. Pas étonnant. Un rien pouvait déclencher la mutinerie d'un équipage qui supportait depuis trop longtemps un capitaine trop strict, et une femme ensorcelée se promenant sur les ponts pouvait précipiter les hommes dans ça, c'est quel trouble. Néanmoins, elle n'y pouvait rien. Les marins et leurs superstitions, fit-elle d'un ton ironique, mais sans trouver beaucoup de vigueur à mettre dans son ton. Laissez-moi, Brashen, je vais bien. Elle poussa de nouveau la porte et cette fois, il la laissa la refermer. Kyle n'était pas au courant de cette visite. Elle en aurait mis sa tête à couper. Elle s'était rallongée sur le plancher et les yeux fermés étaient rentrés en communion avec le navire. Elle sentit Brashen qui demeurait encore quelques instants devant sa porte, puis qui s'en allait vivement retrouver ses tâches propres. Althea l'avait déjà chassé de ses pensées et s'était perdue dans le gazouillis de l'eau de part et d'autre de l'étrave du navire, tandis que le vent pur lui faisait trancher les vagues. Des jours plus tard, la Vivacia sentit les eaux de son port, reconnut le courant qui la poussait doucement vers la baie des marchands et se réjouit de l'abri de la baie elle-même. Quand Kyle ordonna qu'on mette deux canots à la mer pour tracter la Vivacia jusqu'à son mouillage, Althea se réveilla soudain. Elle se leva pour regarder par le hublot. « Enfin rentrée !» se dit-elle. Puis « Père !» Elle sentit en réponse la vibration de plaisir anticipée de la Vivacia elle-même. Elle se détourna du hublot et ouvrit son coffre de marin. Tout au fond se trouvaient ses habits de port, vêtements décents, à portée des quais jusqu'à la maison. C'était une concession que son père et elle avaient faite à sa mère des années plus tôt. Quand le capitaine Vestrit allait en ville, il était toujours vêtu d'une tenue resplendissante, pantalon et manteau bleu par-dessus une épaisse chemise blanche chargée de dentelles. Cela convenait à un ancien marchand et à un capitaine connu. Althea, elle, ne tenait pas à une telle vêture pour elle-même, mais sa mère répétait que, quelle que soit sa façon de s'habiller à bord du navire, elle devait porter des jupes au port et dans les rues. Cela servait au moins à la différencier des domestiques de la ville. Et sa mère ne manquait jamais d'ajouter qu'à voir ses cheveux, son teint et ses mains, nul ne la prendrait pour une dame et encore moins pour la fille d'une famille de premiers marchands. Pourtant, ce n'était pas l'insistance de sa mère, mais un simple mot de son père qui l'avait convaincu d'obéir. « Ne fais pas honte à ton navire, » avait-il dit à mi-voix. Il n'en avait pas fallu plus. Aussi, au milieu de l'agitation de l'équipage qui jetait l'ancre et arrangeait la Vivacia pour son séjour au port, Althea s'en alla chercher de l'eau chaude à la marmite du Cochon et prit un bain dans sa cabine. Puis, elle enfila ses vêtements de port. Jupon, jupe, corsage, gilet, plus un châle crocheté et un ridicule filet en dentelle pour contenir sa chevelure. Pour couronner le tout, et à son grand dam, un chapeau de paille orné de plumes. Elle venait de fermer la ceinture de sa jupe et lassait son gilet quand elle se rendit compte que Brashen avait raison. Ses vêtements pendaient sur elle comme sur un épouvantail. Son miroir lui montra des cernes noires sous ses yeux et des joues presque creuses. Le gris tourterelle de sa vêture à l'ourlet bleu pâle lui donnait l'air encore plus maladif. Même ses mains avaient maigri, et les os de ses poignets et de ses phalanges saillaient à présent. Curieusement, cela ne la dérangea pas. Ce qu'elle avait vécu, se dit-elle, n'était pas différent du jeûne et de l'isolement qu'on peut pratiquer pour rechercher la gouverne de ça. Simplement, au lieu de ça, c'était l'esprit même du navire qui l'avait possédé. Cela en valait la peine, et elle éprouvait presque de la reconnaissance envers Kyle de le lui avoir imposé. Presque. Elle sortit sur le pont en clignant des yeux à cause de l'éclatante réverbération du soleil de l'après-midi sur les eaux calmes du port. Elle leva le regard et observa les murailles du bassin. Terrilleville s'étendait le long du rivage comme les marchandises aux couleurs vives sur sa place du marché. Althea sentit l'odeur de la terre l'imprégner tout entière. Les quais des taxes grouillaient de monde, comme d'habitude. Les navires qui arrivaient à Terrilville avaient l'obligation de s'y présenter en priorité afin que les agents du gouverneur puissent inspecter et imposer le fret au fur et à mesure qu'on le déchargeait. La Vivacia devrait attendre son tour. Apparemment, le Dune d'or était presque prêt à s'en aller. Elle prendrait donc sa place dès qu'il serait dégagé.
D'instinct, Althea chercha sa maison du regard. Elle aperçut un coin de ses murs blancs. Le reste était caché par des arbres. Elle fronça un instant les sourcils à la vue des modifications qui apparaissaient sur les collines environnantes, puis elle les chassa de son esprit. La terre et la ville ne l'intéressaient guère. À son impatience de revoir son père et à son inquiétude pour sa santé, se mêlait une étrange répugnance à quitter la Vivacia.
La yacht du capitaine n'avait pas encore été mise à la mer. Par tradition, elle devait y embarquer pour regagner la terre. L'idée de revoir Kyle ne l'enchantait pas, et encore moins d'effectuer une traversée en sa compagnie. Mais à présent, c'était un désagrément moindre que cela ne l'aurait été une semaine ou 15 jours plus tôt. Elle savait maintenant qu'elle ne pourrait jamais se séparer de la Vivacia. Elle était liée au navire, et le navire lui-même ne tolérerait pas qu'on quitte le port sans elle. Kyle l'irritait toujours, mais ses menaces n'avaient plus de poids. Une fois qu'elle aurait parlé à son père, le vieux capitaine comprendrait ce qui s'était passé. Il reprocherait à Althea ce qu'elle avait dit sur les raisons du mariage de Kefria et de Kyle. En y repensant, elle-même fit la grimace. Il serait en colère contre elle et elle le méritait. Mais elle le connaissait trop bien pour redouter qu'il la sépare de la Vivacia. Elle se retrouva sur le gaillard d'avant, étendu au maximum sur le beau pré pour regarder la figure de proue. Les yeux sculptés restaient fermés, mais c'était sans importance. Althea avait partagé ses rêves.
« Faites attention de ne pas glisser. »«
Rien à craindre, »
répondit-elle à Brashen sans se retourner.
« D'ordinaire, non, mais pâle comme vous l'êtes. J'ai peur que vous n'ayez un étourdissement et passiez par-dessus bord. »«
Non !»
Elle ne lui avait même pas jeté un coup d'œil. Elle aurait voulu qu'il s'en aille. Quand il reprit la parole, ce fut d'un ton plus formaliste.
« Maîtresse Althea, avez-vous des bagages que vous souhaitez qu'on porte à terre ?»«
Rien que le petit coffre près de la porte de ma cabine. »
Il renfermait la soie et les petits cadeaux pour sa famille. Il était prêt depuis plusieurs jours déjà.
Brashen s'éclaircit la voix, mais ne s'éloigna pas.
Althea se tourna vers lui avec une certaine irritation.
« Quoi encore ?»« Par ordre du capitaine, je dois vous aider par tous les moyens nécessaires à enlever vos affaires de la cabine du second. »
Brashen se tenait très droit. Il regardait juste au-delà de l'épaule d'Althea, et pour la première fois depuis des mois, elle le vit vraiment. Combien lui avait-il coûté de rétrograder de lieutenant à simple matelot, uniquement pour demeurer à bord du navire? Elle n'avait supporté qu'une fois la violence verbale de Kyle. En revanche, elle ignorait combien de fois lui ou son second avait semoncé Brashen. Et pourtant, il était toujours là, obligé d'obéir à un ordre déplaisant dont la sagesse ne lui apparaissait pas, et il faisait de son mieux pour l'exécuter comme un vrai officier.
Elle répondit en s'adressant plus à elle-même qu'à Brashen.
« Il tire sûrement grand plaisir à vous assigner cette tâche. »
Il se tut. Les muscles de sa mâchoire saillirent un peu plus, mais il garda le silence. Il refusait malgré tout de critiquer les ordres de son capitaine. Il était désespérant.
« Rien que le petit coffre, Brashen. »
Il prit une inspiration qui semblait peser le poids d'une ancre.
« Maîtresse Althea, j'ai pour ordre de faire enlever toutes vos affaires de cette cabine. »
Elle détourna le regard de Brashen.
L'attitude de Kyle la fatiguait soudain terriblement. Qu'il s'imagine avoir les coudées franches. Le père d'Althea y mettrait bientôt bon ordre.
« Dans ce cas, faites, Brashen. Je ne vous en voudrai pas. »
Il resta comme foudroyé.
Vous ne désirez pas ranger vos affaires vous-même ?
Il était trop interloqué pour ajouter Maîtresse Althea. Elle lui fit un pâle sourire.
Je vous ai vu arrimer du fret. Je suis sûr que vous ferez du travail propre. »
Il resta encore un moment auprès d'elle, comme s'il espérait qu'elle reviendrait sur sa décision, mais elle ne lui prêta aucune attention, et au bout de quelque temps, elle l'entendit se détourner et s'éloigner discrètement sur le pont. Elle reprit son examen du visage de la vivacia, et, agrippée au bastingage, elle jura fermement au navire de ne jamais l'abandonner.
« L'aïeul vous attend, maîtresse Althea !»
D'après le ton de l'homme, il s'était déjà adressé à elle, peut-être plusieurs fois, sans résultat. Elle se redressa et mit avec réticence ses rêves de côté.
« J'arrive !»
dit-elle d'une voix sans énergie, et elle suivit le marin. Elle gagna la ville dans l'aïeul, assise face à Kyle, mais le plus loin possible de lui. Nul ne lui adressa la parole. D'ailleurs, en dehors des ordres nécessaires, nul ne dit rien. À plusieurs reprises, elle surprit les marins aux avirons qui lui jetaient des regards gênés. Grieg, toujours plus hardi que les autres, alla même jusqu'à lui lancer un clin d'œil et un sourire complice. Elle tenta de lui rendre son sourire, mais elle avait l'impression d'avoir oublié comment on s'y prenait. Un grand calme l'avait envahie dès qu'elle avait quitté le bord. Une sorte d'attente de l'âme, pour voir ce que le sort lui réservait. Lors des rares occasions où son regard croisa celui de Kyle, l'expression de son beau-frère la laissa perplexe. La première fois, il paraissait presque frappé d'horreur. Un deuxième coup d'œil le lui montra profondément pensif, mais la dernière fois où elle le surprit en train de la regarder fut la plus glaçante, car il lui adressa un hochement de tête avec un sourire affectueux et encourageant. Il avait la même expression qu'il aurait eue pour sa fille Malta si elle avait particulièrement bien appris ses leçons. Le regard vide, elle détourna les yeux et contempla les eaux placides de la baie des marchands. La petite embarcation toucha le quai du nez, et Althea supporta qu'on l'aide à monter sur le môle comme si elle était invalide. C'était l'ennui des jupes, des châles et des chapeaux qui gênent la vue. Elle parvint enfin sur le quai, et Grieg, à son grand agacement, l'atteint par la taille plus longuement que nécessaire. Elle s'écarta de son bras et se tourna vers lui en s'attendant à voir briller une étincelle espiègle dans ses yeux. Mais elle y lut de l'inquiétude, qui s'accrut quand un instant de vertige la fit se raccrocher à son bras.
« Il faut simplement que je reprenne le pied terrien, » s'excusa-t-elle, et elle s'éloigna de lui encore une fois.
Kyle avait donné des instructions à l'avance et un cabriolet ouvert à deux roues les attendait. Le garçon efflanqué qui le conduisait leur laissa le siège abrité du soleil.
« Pas de bagages ? » demanda-t-il d'une voix croissante.
Althea secoua la tête.
« Pas de bagages, cocher. Conduisez-nous à la résidence Vestrit. C'est au carrefour des marchands. »
Le garçon à demi nu acquiesça et lui offrit sa main tandis qu'elle grimpait tant bien que mal sur le siège. Une fois que Kyle l'y eut rejointe, le cocher bondit agilement sur sa petite jument et lui adressa un claquement de langue. Les sabots ferrés de l'animal se mirent à sonner sur les planches de l'appontement.
Althea garda le regard braqué devant elle tandis que le cabriolet quittait les quais pour les rues pavées de Terrilville et ne fit aucun effort de conversation. Il lui était déjà bien assez désagréable de devoir être assise à côté de Kyle. Elle n'allait pas en plus se fatiguer à bavarder avec lui.
L'animation générale, les gens et les véhicules qui allaient et venaient, les cris de marchandages, les odeurs des restaurants et des salons de thé, tout cela lui paraissait curieusement lointain. Quand son père et elle appontaient, sa mère en général était là pour les accueillir. Il quittait les quais à pied pendant que sa mère, presque sans respirer, faisait à son père un compte-rendu de tout ce qui s'était produit depuis son départ. Il s'arrêtait souvent à un salon de thé pour manger des petits pains au lait tout chaud et boire du thé glacé avant de reprendre la route de leur demeure. Althea soupira.
« Althea, allez-vous bien ? »
demanda Kyle.
« Aussi bien que je puis le souhaiter, je vous remercie, » répondit-elle d'un ton guindé.
Il s'agita sur son siège, puis s'éclaircit la gorge comme s'il s'apprêtait à ajouter un commentaire. Althea en fut sauvée par le cocher qui tira les rênes devant la maison.
Il se trouva à côté du cabriolet, les mains tendues à l'adresse d'Althea, avant même que Kyle pût bouger le petit doigt. Elle sourit au garçon tout en descendant, et il lui rendit son sourire. L'instant suivant, la porte de la résidence s'ouvrit à la volée, et Kefria en sortit en courant et en criant
« Oh, Kyle, Kyle, que je suis heureuse de te voir de retour. Tout va très mal !»
Seldon et Malta trottinaient sur les talons de leur mère qui alla se jeter dans les bras de son époux. Un autre garçon les suivait gauchement. Il avait un air étrangement familier. Sans doute un cousin en visite ou quelque chose comme ça.
« Moi aussi, je suis content de te revoir, Kefria !»
marmonna Althea d'un ton ironique et elle se dirigea vers la porte. À l'intérieur régnaient l'ombre et la fraîcheur. Althea s'arrêta un instant à l'entrée, en prenant plaisir à laisser sa vision s'accommoder à la pénombre. Une femme qu'elle ne reconnut pas apparut avec une cuvette d'eau parfumée et une serviette et commença à lui offrir l'accueil de la maison. Althea la repoussa d'un geste.
« Non merci, je m'appelle Althea et j'habite ici. Où est mon père? Dans son salon ?»
Il lui sembla distinguer un éclair de compassion dans les yeux de la femme.
Il y a des jours qu'il n'est plus assez bien pour profiter de cette pièce, maîtresse Althea. Il se trouve dans sa chambre et votre mère est auprès de lui.
Ses talons sonnant sur le pavage, Althea enfila le couloir en courant. Avant qu'elle atteignît la porte, sa mère apparut dans l'encadrement, le front plissé par un froncement de sourcils inquiets.
« Que se passe-t-il »
demanda-t-elle sèchement. Puis, comme elle reconnaissait Althea, elle s'écria d'un ton soulagé.
« Ah, tu es revenu. Et Kyle ?»«
Il est dehors. Père est encore malade. Depuis tant de mois, je pensais qu'il... »«
Ton père est mourant, Althea, » dit Ronica.
Tout en reculant devant la brutale franchise de sa mère, la jeune fille vit aussi son regard terne. De nouvelles rides étaient apparues sur son visage. Elle avait la bouche tombante et les épaules plus voûtées qu'autrefois. Alors même que son cœur semblait s'arrêter de battre dans sa poitrine, Althea comprit que les mots de sa mère n'étaient pas cruels, mais désespérés. Elle lui avait annoncé la nouvelle rapidement, comme si, en agissant ainsi, elle pouvait épargner à sa fille la douleur d'une lente et progressive compréhension.
« Oh, mère !»
fit Althea en se rapprochant d'elle. Mais Ronica la fit battre en retraite d'un geste. Althea s'arrêta aussitôt. Les étreintes larmoyantes et les pleurs sur l'épaule n'étaient pas du genre de Ronica Westreet. Le chagrin l'avait peut-être courbée, mais elle ne s'était pas encore déclarée vaincue.
« Va voir ton père, Althea, » dit-elle. « Il te demande presque toutes les heures. Je dois m'entretenir avec Kyle. Il y a des dispositions à prendre et guère de temps pour cela, je le crains. Allons, va le voir, va !»
Par deux fois, elle tapota vivement le bras de sa fille, puis s'en alla d'un pas pressé. Althea entendit le claquement de ses chaussures et le bruissement de ses jupes dans le couloir. Elle jeta un coup d'œil à sa silhouette qui s'éloignait, puis ouvrit la porte de la chambre de son père. La pièce ne lui était pas familière. Enfant, elle n'avait pas le droit d'y pénétrer. Quand son père entrait de voyage, sa mère et lui y passaient des heures, et Althea s'offensait de ces matinées où on lui interdisait de déranger leur repos. En grandissant, elle avait fini par comprendre pourquoi ses parents tenaient tant à ces moments en tête-à-tête lors des brefs passages de son père à la maison, et elle avait évité la chambre de son plein gré. Néanmoins, elle en conservait le souvenir d'une grande pièce lumineuse, avec de hautes fenêtres, somptueusement ornées de meubles exotiques et de tissus rapportés de nombreux voyages. Sur les murs étaient fixés des éventails en plumes, des masques de coquillages, des tapisseries de perles et des paysages en cuivre martelé. Le lit avait un dosseret en teck sculpté, et en hiver, l'épais matelas était toujours recouvert d'un amoncellement de piquets en plumes et de couvre-lits de fourrure. L'été, un vase de fleurs trônait sur la table de chevet, et le lit était tendu de frais draps de coton parfumés à la rose. La porte s'ouvrit sur la pénombre. L'essence de fleurs ne parvenait pas à cacher la lourde odeur âcre d'une chambre de malade, ni celle des médicaments. Les fenêtres étaient closes, les rideaux tirés pour empêcher l'éclat du jour de pénétrer. Althea fit quelques pas hésitants dans la chambre, pendant que ses yeux s'habituaient au manque de lumière.
« Papa ? »
fit-elle d'un ton indécis devant le lit immobile. Il n'y eut pas de réponse. Elle se rendit à la fenêtre et tira les épais rideaux de brocart pour laisser entrer la clarté oblique de l'après-midi. Un coin de soleil tomba sur le lit, éclairant une main jaune et décharnée sur les couvertures. Althea eut l'impression de voir la serre maigre et recroquevillée d'un oiseau mort. Traversant la pièce, elle s'assit sur la chaise de chevet en sachant que c'était le poste habituel de sa mère. Malgré toute son affection pour son père, elle éprouva un instant de révulsion en prenant la main inerte dans la sienne. Elle n'avait plus ni muscles, ni cale. Althea se pencha sur le visage de son père. « Papa ? » fit-elle encore une fois. Il était déjà mort, ou du moins le crut-elle lors de ce premier coup d'œil à son visage. Soudain, elle entendit une inspiration râpeuse. « Althea !» fit-il d'une voix encombrée par les glaires. Ses paupières collantes parvinrent à s'ouvrir. Toute trace du regard noir et acéré avait disparu. Ses yeux-là étaient enfoncés dans leur orbite, injectés de sang, le blanc devenu jaune. Il leur fallut un moment pour situer Althea. Il la dévisagea et elle s'efforça éperdument d'effacer toute horreur du regard qu'elle lui rendit. « Papa, je suis revenue !» lui dit-elle avec un enjouement fin, comme si cela pouvait faire quelque différence pour lui. La main de son père s'agita faiblement dans la sienne, puis ses yeux se refermèrent. « Je suis en train de mourir !» fit-il d'un ton où se mêlaient le désespoir et la colère. « Oh, papa, non, tu vas te remettre, tu vas... »«
Tais-toi !»
Ce n'était qu'un murmure, mais l'ordre émanait à la fois de son capitaine et de son père.
« Une seule chose compte. Amène-moi sur la Vivacia. Il faut que je meure sur ces ponts. Il le faut. »«
Je sais, »
répondit-elle. La douleur qui avait commencé à grandir dans le cœur d'Althea se figea soudain.
Ce n'était pas le moment.
« Je vais tout préparer. »«
Tout de suite, » ajouta-t-il.
Son chuchotement rendait un son de gargouillis comme s'il se noyait. Une vague de désespoir balaya Althea, mais elle se reprit.
« Je ne te ferai pas faux bond, »
promit-elle. La main de son père tressaillit encore une fois, puis tomba de celle d'Althea.
« J'y vais immédiatement. »
Comme il se levait, il s'étouffa, puis réussit à dire d'une voix étranglée
« Althea !»
Elle se figea sur place. Il s'étrangla encore un peu, puis aspira une goulée d'air.
« Kefria et ses enfants, ils ne sont pas comme toi. »
Il reprit frénétiquement son souffle.
« J'ai dû pourvoir à leurs besoins. Il le fallait. »
Il chercha encore de l'air pour continuer, mais n'y parvint pas.
« Bien sûr, » dit Althea, « tu as parfaitement subvenu à nos besoins. Ne te soucie pas de ça. Tout ira bien, je te le promets. »
Elle avait quitté la chambre et traversé la moitié du couloir quand elle se rendit compte de ce qu'elle lui avait dit. Qu'entendait-elle par cette promesse ? Qu'elle veillerait à ce qu'il meure sur la vive nef qu'il avait si longtemps commandée ? Belle définition de « tout ira bien ». Puis, avec une certitude inébranlable, elle sut que, quand son tour viendrait de mourir, si elle pouvait le faire sur les ponts de la Vivacia, tout irait bien pour elle aussi. Elle se frotta le visage avec la sensation de se réveiller. Ses joues étaient humides. Elle pleurait.
Ce n'était pas le moment d'éprouver des émotions, pas le moment de pleurer.
Comme elle sortait en coup de vent dans le soleil éclatant, elle faillit se cogner au groupe de gens réunis à l'entrée. Elle battit un instant des paupières et se rendit bientôt compte qu'il s'agissait de sa mère, de Kyle, de Kefria et des enfants. Ils la dévisageaient en silence. L'espace d'un instant, elle leur rendit leur regard effaré, puis déclara
« Je descends préparer le navire. Laissez-moi une heure et puis amenez papa. »
Kyle fronça les sourcils, l'air sombre, en s'apprêtant à répondre. Mais la mère d'Althea le devança en hochant la tête et dit d'une voix éteinte
« Vas-y. »
Elle s'étrangla sur ces mots et Althea vit qu'elle s'efforçait de rajouter quelque chose malgré sa gorge nouée par le chagrin.
« Dépêche-toi, »
fit-elle enfin. Althea acquiesça et commença de descendre l'avenue à pied. Le temps qu'on envoie un coursier en ville lui chercher un cabriolet, elle serait déjà presque au navire.
« Faites-la au moins accompagnée d'un domestique !»
s'exclama Kyle dans son dos d'un ton furieux. Et plus doucement, sa mère répondit
« Non, qu'elle y aille, qu'elle y aille. Nous n'avons plus le temps de nous soucier des apparences, je le sais. Venez m'aider à préparer une litière pour Efron. »
Quand Althea parvint au quai, sa robe était imprégnée de transpiration. Elle maudit le destin qui avait fait d'elle une femme condamnée à porter de tels atours. L'instant suivant, elle remerciait le même ça à qui elle venait d'adresser d'amers reproches, car un espace s'était libéré au quai des taxes et la vivacia s'y introduisait lentement. Elle attendit impatiemment la fin de la manœuvre, puis soulevant ses jupes, elle bondit sur le pont alors qu'on amarrait le navire. Gantry, le lieutenant de Kyle, se tenait sur le gaillard d'avant, les mains sur les hanches. Il sursauta à la vue d'Althea. Il avait peu de temps auparavant été mêlé à une rixe, car tout un côté de son visage était enflé et commençait à virer au violet. La jeune fille négligea ce détail. C'était au second de veiller au comportement de l'équipage. Or, les humeurs pouvaient être disputailleuses le premier jour au port. La liberté était à portée de main, et en outre, les équipages des navires et les équipes des quais ne s'entendaient pas toujours bien. Mais l'air renfrogné que prit l'homme semblait dirigé contre elle.
« Maîtresse Althea, que faites-vous ici ?»
Il paraissait indigné. En toute autre circonstance, elle aurait pris le temps de se froisser de son ton, mais elle se contenta de répondre. « Mon père est à l'agonie. Je viens préparer le navire pour le recevoir. » Si l'expression de l'homme ne s'adoucit pas, c'est d'une voix déférente qu'il demanda.
« Quels sont vos ordres ?»
Elle porta ses mains à ses tempes. Qu'avait-on fait à la mort de son grand-père? C'était il y a si longtemps. Mais on attendait d'elle qu'elle sache que faire. Elle prit une grande inspiration afin de se calmer, puis s'accroupit soudain pour poser la main à plat sur le pont.
Vivacia, si proche de l'éveil.
Il faut dresser un pavillon de toile là-bas. Installez-le de façon que la brise puisse rafraîchir mon père.
Pourquoi ne pas le mettre dans sa cabine ?
Demanda Gantry.
Ce n'est pas ainsi qu'on procède, répliqua la jeune fille d'un ton sec. Il faut qu'il soit ici, sur le pont, sans rien entre le navire et lui. Il faut aussi de la place pour la famille. Dresser quelques bancs de planches pour ceux qui assisteront à la veillée funèbre.
J'ai un bateau à décharger, déclara brutalement Gantry, et une partie du fret est périssable. Il faut la sortir le plus vite possible. Comment voulez-vous que mes gars y arrivent s'ils doivent installer en plus un pavillon et travailler sur un pont encombré de gens ?
Il posa la question à la vue et à l'ouïe de l'équipage tout entier, et on sentait du défi dans sa voix. Althea le regarda bouche bée en se demandant ce qui lui prenait de discuter avec elle juste à ce moment. Ne se rendait-il donc pas compte de l'importance ? Non, sans doute pas. Il avait été choisi par Kyle et ne connaissait rien du processus d'éveil d'une vive nef. Comme si son père se tenait à côté d'elle, elle s'entendit formuler l'ordre habituel qu'il donnait toujours à Brashen en cas de difficulté. Elle se redressa.
« Débrouillez-vous »
ordonna-t-elle succinctement. Elle jeta un coup d'œil aux alentours. Des matelots avaient interrompu leur tâche pour suivre l'échange. Chez certains, elle eut de la compassion et de la compréhension. Chez d'autres, seulement la curiosité avide de qui assiste à une lutte entre deux volontés. D'un ton un peu plus menaçant, elle ajouta
« Si vous n'êtes pas capable, laissez Brashen s'en occuper, il saura s'y prendre. »
Elle s'apprêtait à se détourner quand elle se ravisa. « C'est d'ailleurs la meilleure solution.
Confiez à Brashen l'installation du capitaine Vestrit. C'est son lieutenant, c'est parfait. Vous, occupez-vous du déchargement de la cargaison de votre capitaine. »
« Il ne peut y avoir qu'un seul commandant à bord, »
fit remarquer Gantry. Il regardait ailleurs comme si ce n'était pas à elle qu'il s'adressait, mais elle décida de répondre tout de même.
« C'est exact, matelot. » Et quand le capitaine Vestrit est à bord, il n'y a qu'un seul commandant. Il m'étonnerait que vous trouviez grand monde sur ce navire pour remettre cette évidence en question.
Ses yeux quittèrent l'homme pour aller se poser sur le charpentier du bord. Bien qu'il ne lui inspirât plus guère de sympathie,
Sa loyauté envers son père avait toujours été absolue. Elle croisa son regard et elle lui ordonna « Aidez Brachen de toutes les façons qu'il souhaitera. Faites vite, mon père va bientôt arriver. Si c'est la dernière fois qu'il doit monter à bord, j'aimerais qu'il voie la vivacia en ordre et l'équipage affairé. » Cette demande suffit. Le visage du charpentier prit soudain une expression de compréhension qui se répandit au reste des hommes par le simple coup d'œil qu'il leur jeta. C'était vrai, et c'était urgent. Le commandant sous lequel ils avaient servi, certains depuis plus de 20 ans, venait mourir à bord. Il se vantait souvent d'avoir les meilleurs hommes à faire voile hors de Terrilville, et ça, le savait. Il les payait mieux qu'il ne l'aurait été sur aucun autre navire.
« Je vais chercher Brachen, » assura le charpentier, et il s'en alla d'un pas décidé.
Gantry prit son souffle comme pour le rappeler, mais il hésita un instant, puis se mit à aboyer des ordres pour le déchargement de la cargaison. Il pivota juste assez pour qu'Altea ne soit plus dans son axe de vision. Il l'avait chassé de son esprit. Par réflexe, elle faillit se mettre en colère, puis elle se rappela qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper de son attitude insolente. Son père se mourait. Elle alla trouver le voilier pour lui commander une pièce de toile neuve, et quand elle regagna le pont, elle y vit Brachen qui parlait avec le charpentier. De la main, il indiquait le gréement tout en discutant de la manière d'y accrocher le pavillon. Quand il se tourna vers elle, elle découvrit une bosse au-dessus de son œil gauche. C'était donc avec lui que le lieutenant s'était pris de querelle. Eh bien, quel qu'en était le sujet, elle s'était réglée à la manière habituelle. Il ne restait plus grand-chose à faire qu'attendre. Elle avait chargé Brachen de s'occuper de la situation et il avait accepté. Or, elle avait retenu un enseignement de son père. Quand on nomme un homme responsable d'une tâche, on le laisse tranquille pendant qu'il l'effectue. De plus, elle n'avait pas envie d'entendre Gantry grommeler qu'elle gênait le travail. En conséquence, sans autre endroit où se rendre sans manquer d'élégance, elle descendit à sa cabine. Il n'y restait plus rien, à part le tableau de la vivacia. La vue des étagères vides faillit lui déchirer le cœur. Toutes ses affaires avaient été proprement rangées, serrées dans diverses caisses à claire-voie encore ouvertes. Des bordées, des clous et un marteau gisaient par terre. Telle était donc la tâche dont elle avait détourné Brachen. Elle s'assit sur le matelas de coutil de sa couchette et regarda les caisses. En elle, une part industrieuse souhaitait qu'elle s'accroupît pour clouer les couvercles, tandis qu'une autre, provocatrice celle-là, la poussait à déballer ses affaires et à les remettre à leur place légitime. Ainsi tiraillée entre ces deux impulsions, elle demeura un moment immobile. Puis, avec une soudaineté qui la prit par surprise, le chagrin l'étouffa. Ses sanglots ne parvenaient pas à sortir et elle n'arrivait même plus à respirer tant elle avait la gorge nouée. Son besoin de pleurer faisait en elle une douloureuse constriction qui la suffoquait littéralement. Assise sur sa couchette, elle restait la bouche ouverte à essayer de reprendre son souffle. Quand elle réussit enfin à faire passer une goulée d'air dans ses poumons, elle ne put que se mettre à sangloter. Les larmes sillonnaient ses joues et elle n'avait pas de mouchoir, rien que sa manche ou ses jupes. Mais quel manque de cœur fallait-il pour seulement songer à un mouchoir en de telles circonstances? Elle enfouit son visage dans ses mains et se laissa aller à pleurer, tout simplement.
Ils s'éloignèrent en caquetant entre eux comme une troupe de poulets, et Yémin ne put que les suivre. Il ignorait que faire d'autre. Il se trouvait à Terrilville depuis 5 jours, et il ne savait toujours pas pourquoi on l'avait rappelé. Son grand-père était mourant, il était naturellement au courant, mais il ne voyait pas ce qu'on espérait qu'il y fît, ni même quelle réaction on attendait de lui. Dans l'agonie, le vieillard était encore plus intimidant que dans la vie. Quand Yémin était enfant, c'était la vitalité brute de l'homme qui l'effrayait. À présent, c'était la noirceur de la mort imminente qui sourdait de lui et vidait ses ténèbres dans la chambre. Sur le bateau qui le ramenait chez lui, Yémin avait pris la ferme résolution d'apprendre quelque chose de son grand-père avant sa mort. Mais il était désormais trop tard. Ces dernières semaines, tout ce qu'Efron Vestrit possédait de lui-même avait été appliqué à s'accrocher à la vie. Il s'agrippait avec acharnement à chaque respiration, et cela n'avait rien à voir avec la présence de son petit-fils. Non, il attendait seulement le retour de son navire. De toute manière, Yéman n'avait guère passé de temps en compagnie de son grand-père. À son arrivée, sa mère lui avait à peine laissé le temps de se laver le visage et les mains de la poussière du voyage avant de le faire entrer dans la chambre et de le présenter. Désorienté par son voyage en mer et le trajet assourdissant par les rues torrides et affairées de la ville, c'est tout juste s'il avait saisi que cette femme aux cheveux sombres et courts était la maman qui le dominait jadis de toute sa taille. Les rideaux de la pièce dans laquelle elle l'avait fait pénétrer si vite étaient clos pour empêcher la chaleur et l'éclat du jour d'entrer. Une femme était assise dans un fauteuil au chevet du lit. Il régnait dans la chambre une âcre odeur de renfermé. Et il avait dû faire un grand effort sur lui-même afin de ne pas s'enfuir quand la femme s'était levée pour le serrer contre elle. Elle l'avait agrippé par le bras dès que sa mère l'avait lâché, puis elle l'avait attiré près du lit.
« Ephron, avait-elle murmuré. « Ephron, Yéman est ici. »
Et dans le lit, une forme avait remué, toussé, puis marmonné ce qui était peut-être une phrase indiquant qu'elle l'avait compris. Yéman était resté sans bouger, le poignet menotté par la main de sa grand-mère, et avait déclaré au bout d'un moment seulement « Bonjour, grand-père. Je suis en visite à la maison. » Si le vieillard l'avait entendu, il ne s'était pas donné la peine de répondre. Quelque temps après, il avait toussé de nouveau, puis demandé d'une voix rauque
« Navire ?»«
Non, non, pas encore, » avait répondu son épouse d'une voix douce. Ils étaient restés encore un peu, Yéman, sa mère et sa grand-mère. Puis, comme le vieillard ne faisait pas mine de bouger ni de s'intéresser à leur présence, sa femme avait dit «
« Je pense qu'il désire se reposer maintenant, Yéman. Je t'enverrai chercher plus tard, quand il se sentira un peu mieux. »
Cette occasion ne s'était pas présentée. Et voici que son père était rentré, mais apparemment seule la mort imminente d'Ephron Vestrit occupait son esprit. Il avait jeté un regard à Yéman pendant qu'il étreignait sa mère. Ses yeux s'étaient brièvement agrandis, et il avait adressé un hochement de tête à son fils aîné. Mais à cet instant, son épouse Kefria s'était mise à s'épancher de toutes les mauvaises nouvelles et de leurs complications. Yéman s'était tenu à l'écart, comme un étranger, tandis que sa sœur Malta puis son frère cadet Seldon se jetaient dans les bras de leur père. Enfin, les plaintes de Kefria s'étaient interrompues et Yéman s'était avancé, d'abord pour s'incliner devant son père, puis pour lui serrer la main.
« Voici donc mon fils le prêtre. » dit Kyle en guise de formule d'accueil,
et Yéman ne parvint pas à savoir s'il ne s'y cachait pas une ombre de dérision. Les paroles suivantes de son père ne l'étonnèrent pas.
« Ta petite sœur est plus grande que toi. Et pourquoi portes-tu une robe comme une femme ?»«
Kyle !» s'exclama son épouse. Mais il se détourna de Yéman sans attendre sa réponse. À présent, sa tante partie, il suivait sa famille. Les adultes discutaient déjà de la meilleure façon de transporter Ephron jusqu'au navire et de ce qu'il faudrait ensuite enlever de la vivacia ou y apporter. Les enfants, Malta et Seldon, marchaient derrière eux en s'efforçant de poser toutes sortes de questions à leur mère, en vain, car leur grand-mère les faisait taire sans cesse. Quant à Yéman, en retrait, il suivait le groupe sans se sentir ni adulte ni enfant, sans éprouver le sentiment de participer à ce carnaval d'émotions. Durant le trajet qui l'amenait à Terrilville, il s'était rendu compte qu'il ignorait à quoi s'attendre, et depuis son arrivée, cette impression n'avait fait que se renforcer. Le premier jour, il avait surtout conversé avec sa mère, qui n'avait cessé de s'exclamer sur sa maigreur ou d'évoquer des souvenirs attendris qui commençaient invariablement par « Tu ne te rappelles sans doute pas, mais… » Malta, jadis si proche de lui qu'on eût presque dit son ombre, lui en voulait aujourd'hui d'être revenu et de détourner si peu que ce fût l'attention de leur mère. Elle ne s'adressait pas à lui, mais parlait de lui, prétendument au domestique ou à Seldon, et ne se privait pas de faire des remarques désobligeantes quand sa mère n'était pas là pour l'entendre. Pour ne rien arranger,
À 12 ans, elle était plus grande que lui et ressemblait déjà plus à une femme que Yéma à un homme adulte. Nul n'aurait jamais deviné qu'il était l'aîné. Selden, qui n'était guère plus qu'un bébé quand il était parti, le traitait comme un parent en visite qu'il n'était pas très intéressant d'apprendre à connaître, puisqu'il allait sûrement repartir bientôt. Yéma priait avec ferveur pour que Selden eût raison. Attendre impatiemment la mort de son grand-père afin de pouvoir retrouver son monastère n'avait rien d'honorable, il le savait. Mais il n'ignorait pas non plus que nier ce sentiment aurait constitué un mensonge d'une autre sorte. Tout le monde s'était arrêté devant la porte du mourant, et chacun baissait le ton, comme s'il échangeait des secrets avec les autres, comme s'il ne fallait pas parler tout haut de la mort de l'homme dans la chambre. Pour Yéma, cela ne rimait à rien. Le vieillard attendait certainement ce moment depuis longtemps. Par un effort de volonté, il se concentra sur la conversation.
« Je pense qu'il vaut mieux ne rien évoquer de tout cela, » disait sa grand-mère à son père.
Elle tenait le bouton de la porte, mais sans le tourner. On avait presque l'impression qu'elle empêchait son gendre d'entrer.
À voir ses sourcils froncés, il était manifeste que Kyle Havre ne partageait pas le point de vue de sa belle-mère.
Mais son épouse Kefria lui avait saisi le bras et levé vers lui un regard suppliant en hochant la tête comme une poupée articulée.
« Ça ne ferait que le bouleverser, » fit-elle.
« Et pour rien, » enchaîna sa mère, comme si elle partageait une même pensée. « Il m'a fallu des semaines pour le convaincre de voir la situation comme nous. Et il a fini par l'accepter, mais à contre-cœur. Vos plaintes ne feraient que rouvrir la discussion. Or, quand il a mal et qu'il est fatigué, il peut se montrer étonnamment entêté. »
Elle se tut et les deux femmes regardèrent Kyle comme si elle lui ordonnait d'acquiescer. Il ne hocha même pas la tête, mais finit par concéder d'un ton aigre.
« Je ne mettrai pas tout de suite le sujet sur le tapis. Descendons-le d'abord à son navire, c'est le plus important. »«
Exactement, » fit grand-mère Vestrit, et elle ouvrit enfin la porte. Ils entrèrent, mais quand Malta et Selden voulurent les imiter, elle leur barra vivement le passage.
« Non, les enfants. » « Courez demander à Nana de vous emballer des vêtements de rechange.
Malta, va vite dire à la cuisinière qu'elle nous prépare un panier de provisions, puis qu'elle prenne ses dispositions pour nous faire envoyer des repas. »
Elle considéra un moment Yéma en silence, comme si elle se demandait que faire de lui, puis elle hocha la tête.
« Yéma, toi aussi, il te faudra de quoi te changer. Nous allons rester à bord du navire jusqu'à... Oh, grand Dieu !»
Elle devint soudain livide et son visage exprima une lugubre prise de conscience.
Yéma connaissait cette expression. Il avait souvent accompagné les guérisseurs lorsqu'on les appelait et souvent aussi leurs herbes, leurs toniques ou leurs mains restaient impuissants ou presque pour les mourants. Dans ces occasions, ce qui comptait le plus était ce que lui, Yéma, pouvait faire pour les survivants en proie au chagrin. Les mains de sa grand-mère se portèrent telles des serres au col de sa robe et ses lèvres se tordirent de douleur. Le jeune garçon sentit sourdre en lui une compassion sincère pour elle.
« Oh, grand-mère » fit-il dans un soupir, et il tendit les bras vers elle.
Mais alors qu'il s'avançait pour l'étreindre et d'un contact lui ôter une partie de son chagrin, elle recula et lui tapota les mains d'un geste presque répulsif.
« Non, non, je vais bien, mon chéri. Ne t'inquiète pas pour ta grand-mère. » « Va chercher tes affaires pour être prêt en même temps que nous. »
Et elle lui ferma la porte au nez.
Il resta un moment planté là, sans parvenir à croire qu'elle ait refusé son aide. Puis quand il recula, il s'aperçut que Malta et Selden le regardaient.
« Oh !»
fit-il d'une voix morne. Puis, dans une crise de désespoir qu'il n'analysait pas complètement, il essaya de ressentir un lien de parenté avec son frère et sa sœur. Il planta ses yeux dans les leurs.
« Notre grand-père est en train de mourir, » déclara-t-il solennellement.
« Ça dure depuis le début de l'été, » répliqua Malta d'un ton dédaigneux. Elle secoua la tête devant la sottise de Yéma, puis se détourna de lui comme s'il n'existait plus.
« Viens, Selden,
Je vais demander à Nana d'empaqueter nos affaires. » Et sans un regard en arrière, elle emmena le petit garçon en laissant Yémin dans le couloir. Un instant, il essaya de ne pas se sentir froissé. Ses parents n'avaient pas eu l'intention de le diminuer en l'excluant, et sa sœur était sous le coup du chagrin. Et puis, il sut qu'il se mentait à lui-même. Il s'attacha donc à voir ce qu'il éprouvait sous tous ses aspects afin de le comprendre. Sa mère et sa grand-mère étaient préoccupées. Son père et sa sœur avaient cherché exprès à lui faire mal, et il leur avait permis d'y parvenir. Mais ces épisodes qui s'étaient produits et les sentiments dont il faisait à présent l'expérience n'étaient pas des défauts à éradiquer. Il ne pouvait nier les sentiments en question, et il ne devait pas essayer de les modifier. « Accepte et grandis », se dit-il. Et il sentit la douleur s'apaiser. Il alla emballer des vêtements de rechange. Brashen contempla Althea sans arriver à croire ce qu'il voyait. « Il n'avait vraiment pas besoin de ça aujourd'hui », songea-t-il stupidement. Puis il se raccrocha à la colère sous-jacente à cette pensée pour refouler l'affolement qui le menaçait. Il referma la porte et s'agenouilla près d'Althea. Il était entré dans la cabine après qu'elle eût refusé de répondre lorsqu'il avait frappé à la porte, d'abord doucement, puis avec plus de vigueur. En poussant le battant, il s'était attendu à trouver la jeune fille tout feu tout flamme contre lui, mais non. Il l'avait découverte étendue par terre, exactement comme les héroïnes des théâtres à un sou lorsqu'elles s'évanouissent. Sauf qu'au lieu de reposer gracieusement, le visage sur les mains, Althea gisait les doigts presque crispés sur le plancher, comme si elle s'efforçait de les enfoncer dans le bois. Elle respirait. Il hésita, puis lui secoua doucement l'épaule. « Maîtresse, » fit-il d'abord avec gentillesse, puis d'un ton plus agacé. « Althea, réveillez-vous !» Elle gémit vaguement, mais ne réagit pas. Brashen la considéra d'un œil noir. Il aurait dû appeler à grands cris le médecin du bord, mais comme Althea elle-même, il ne tenait pas au scandale. Elle préférerait qu'on ne la vît pas ainsi, il en était sûr. Du moins, aurait-ce été le cas de l'Althea de naguère. Perdre connaissance et se retrouver allongée sur le plancher ne lui ressemblait pas plus que l'humeur mélancolique dont elle avait fait preuve dans sa cabine pendant tout le long voyage de retour. Brashen s'inquiétait aussi de sa pâleur et de la maigreur de son visage. Il jeta un coup d'œil à la cabine vide, puis prit Althea dans ses bras et la déposa sur le matelas nu de la couchette. « Althea, » fit-il d'un ton insistant. Et cette fois, elle battit des paupières avant de les ouvrir. « Quand le vent emplit les voiles, on peut trancher les vagues comme du beurre avec un couteau chauffé. » lui dit-elle avec un sourire affable. Elle le regarda et ses yeux avaient presque une expression lointaine et extatique. Brashen faillit lui rendre son sourire, prit tout à coup dans l'intimité qui sous-tendait ses doux propos, mais il se ressaisit.
« Vous vous êtes évanoui ? » demanda-t-il d'un ton bourru.
Le regard d'Althea devint brusquement circonspect. « Non, pas exactement. Je n'arrivais simplement plus à me tenir. » Sa voix mourut et elle quitta la couchette. Elle fit un pas chancelant, mais à l'instant où il tendait la main pour la soutenir, elle prit appui contre une cloison. Elle contempla la paroi comme si elle y voyait une scène parfaite. « Lui avez-vous préparé une place ? » demanda-t-elle d'une voix rauque. Il acquiesça. Elle hocha la tête à l'unisson et Brashen déclara avec hardiesse « Althea, je partage votre douleur. Il comptait beaucoup pour moi. » « Il n'est pas encore mort ? » répliqua-t-elle d'un ton sec. Elle se passa les mains sur le visage et repoussa ses cheveux en arrière. Puis, comme si elle considérait qu'elle avait ainsi remis en état son apparence dépenaillée, elle passa devant Brashen à grands pas et sortit de la cabine. Il la suivit quelques instants plus tard. C'était typique d'Althea. Elle ne comprenait pas qu'il existait d'autres personnes en dehors d'elle. Elle avait rejeté la peine qu'il ressentait comme si la formule qu'il avait employée était de pure courtoisie. Il se demanda si elle avait jamais pris le temps de songer à l'importance que la mort de son père pouvait avoir pour lui, ou pour n'importe quel homme de l'équipage. De tous les commandants de Terrilville,
le capitaine Vestrit était le plus généreux et le plus juste. Althea se rendait-elle compte à quel point il était rare qu'un capitaine se soucie du bien-être de son équipage? Non, elle en était incapable, naturellement. Elle n'avait jamais voyagé à bord d'un navire où les rations se résumaient à du pain charançonné et à du porc salé, gluant et presque toxique. Elle n'avait jamais vu un homme se faire quasiment tuer à coups de poing par le second simplement parce qu'il n'avait pas réagi assez vite à un ordre. Certes, le capitaine Vestrit ne tolérait pas le relâchement, mais il se contentait de se débarrasser au premier port venu de ceux qui avaient cette habitude. Il n'avait jamais recours à la violence. Et il connaissait son équipage. Il ne prenait pas n'importe qui sur les quais quand il avait besoin d'un équipage. Il disposait d'hommes qu'il avait formés et éprouvés lui-même et dont il n'ignorait rien. Ces hommes avaient connu eux aussi leur commandant et avaient eu foi en lui. Brashen en savait certains qui avaient refusé des postes plus élevés sur d'autres navires pour rester avec Vestrit. Certains marins, selon les critères de Brashen, étaient trop vieux pour travailler sur un pont, mais Efron les avait gardés à cause de l'expérience de leurs années. Et il avait trié sur le volet les matelots jeunes et forts qu'il leur avait confiés, afin qu'ils apprennent du savoir de leurs aînés. Il avait remis le sort du navire entre leurs mains, et en retour, ils avaient remis leur avenir entre les siennes. À présent qu'Althea allait hériter de la Vivacia, Brashen priait ça, qu'elle eût assez de morale et de bon sens pour les maintenir à bord et bien les traiter. Beaucoup parmi les plus vieux n'avaient d'autre domicile que la Vivacia. Brashen en faisait partie.